France Culture.
On fait le point sur l'information, c'est le journal de la rédaction avec Thomas Cluzel. Rebonjour Thomas.
Rebonjour Marie, bonjour à toutes et à tous. Même si des larmes de joie ont, c'est vrai, réussi à éteindre ce matin les flammes dévastatrices qui parcouraient le Proche-Orient, combien de temps encore chacun des deux camps qui doivent précisément leur existence politique à cette guerre criminelle patienteront-ils avant de céder peut-être à nouveau à leurs pires élans? Pour l'instant, l'heure reste malgré tout donc aux espoirs de paix et surtout au sourire de ceux qui vont pouvoir enfin retrouver leurs proches détenus depuis le 7 octobre 2023 dans la bande de Gaza. Nous serons à Tel Aviv, place des otages, dès le début de ce journal. À suivre également l'entrée en fonction bien sûr du deuxième gouvernement de Sébastien Lecornu avec 12 de ses anciens ministres reconduits et le retour aux affaires de personnalités qui avaient déjà œuvré sous l'ère Macron. Quelles sont ses chances de se maintenir? Évitera-t-il la chute avec le dépôt demain d'un projet de budget? On en parlera avec notre invité Eric Coquerel, député insoumis, président de la commission des finances de l'Assemblée. Enfin, le prix des L'économie bouclait ce matin la saison 2025 des récompenses à la mémoire d'Alfred Nobel. Il a été attribué à un trio, dont le français Philippe Aguillon, pour leurs travaux sur l'impact des nouvelles technologies sur la croissance économique. L'annonce de la libération des derniers otages du Hamas était attendue depuis plus de 2 ans en Israël, 738 jours, très exactement, et forcément ce matin, place des otages à Tel Aviv, où des milliers de personnes avaient commencé à se masser avant même le lever du jour. Les premières images apparues sur un écran du retour des captifs de la bande de Gaza ont été accueillies par des scènes de liesse. Notre envoyé spécial Valérie Crova était sur place.
Les hélicoptères qui emmènent les anciens captifs du Hamas dans les hôpitaux de Tel Aviv survolent la place des otages sous un tonnerre d'applaudissements. Wilfried, enroulé dans un drapeau israélien, a participé à la liesse populaire. Il est là depuis 6 heures du matin.
On a versé des larmes de joie. C'est une victoire, je pense, pour le peuple israélien.
Une victoire, certes, mais au goût amer pour Anaël, maman de 4 fillettes qui l'accompagne ce matin.
Il ne faut pas oublier qu'il y a quand même une partie des otages qui vont revenir malheureusement morts. Et on n'oublie pas aussi tous les gens qui sont tombés pour arriver à la libération de ces otages. Parce que nous, personnellement, on a un ami avec qui on a grandi de Marseille. Et dans chaque instant, je pense à lui.
Son mari, Sacha, voit dans cette journée une communion entre tous les Israéliens et au-delà.
Aujourd'hui, tout le monde est là. Tout le monde est là pour accueillir les otages, pour remercier nos soldats. Et c'est une émotion de savoir que le monde entier a travaillé à cette paix. Et on espère que elle sera pérenne dans le temps et que nous pourrons vivre enfin en étant acceptés par nos voisins.
Demain matin marquera l'anniversaire des 2 ans de l'attaque du 7 octobre, selon le calendrier religieux juif. Le fait que les otages aient été libérés la veille représente un symbole particulièrement fort. Ils pourront passer la fête de Simrat Torah en famille.
Un reportage à Tel Aviv signé Valérie Crova. Alors le retour ce matin des derniers otages qui s'est accompagné parallèlement de la libération de prisonniers palestiniens constitue la première étape en réalité du plan imaginé par Donald Trump pour faire taire les armes et ainsi mettre fin à 2 années d'une guerre sanguinaire. Le président américain lui-même est d'ailleurs arrivé ce matin en Israël pour une visite éclair, l'occasion d'y recevoir la gratitude de tous ceux qui le considèrent aujourd'hui comme l'artisan principal du retour des derniers captifs du Hamas. Thibault Lefèvre, bonjour.
Bonjour Thomas.
Correspondant de France Culture à Jérusalem. Après avoir rencontré son ami, le Premier ministre Benjamin Netanyahou, Donald Trump est arrivé il y a quelques minutes à la Knesset, le Parlement israélien, où, sans surprise, Thibault, il a été ovationné.
Oui, Donald Trump est actuellement, au moment où je vous parle, à la gauche de Benjamin Netanyahou, qui a pris la parole, à la droite d'Amir Ohana. Amir Ohana, c'est le président de la Knesset, du Parlement israélien. Il ne s'est donc pas encore exprimé, et c'est Amir Ohana qui a d'abord, lui, pris la parole pour rendre hommage aux otages et à leurs familles.
Mishpachot chatoufim, mishpachot shakulot.
Tonnerre d'applaudissements, vous l'entendez, pour ses otages et pour l'homme du deal, donc Donald Trump, qui, comme je vous le disais, n'a pas encore parlé. Ça ne devrait pas tarder, il fait face à une audience conquise, euphorique même. Des ministres du gouvernement Netanyahou portent la fameuse casquette rouge des supporters du président américain, avec le message suivant, Trump, the peace president, Trump, le président de la paix.
Et puis l'autre image marquante de cette journée, Thibault, ce sera tout à l'heure à Sharm el-Sheikh. Donald Trump y est attendu pour présider avec son homologue égyptien un sommet pour la paix, en présence notamment, on l'a appris ce matin, du président palestinien Mahmoud Abbas. Benjamin Netanyahou devait également se rendre sur place et finalement, Thibault, sa visite vient a priori d'être annulée.
Alors oui, un broglio diplomatique, et croyez-moi Thomas, ce n'est peut-être pas terminé. Mahmoud Abbas, vous l'avez dit, le président de l'autorité palestinienne, venait d'être invité cet après-midi, pas Netanyahou, qui était, vous savez, depuis le début de la guerre à Gaza, en froid avec le président égyptien, alors sous le patronage de Donald Trump. Abdel Fattah al-Sissi et Benjamin Netanyahou se sont finalement parlé, le premier ministre a été invité. On s'attendait donc à une rencontre historique entre le premier ministre israélien et le président de l'autorité palestinienne. Rappelez-vous, ils ne se sont pas vus et parlé depuis près de 10 ans. Cette rencontre n'aura a priori pas lieu. Benjamin Netanyahou évoque la fête religieuse de Simchat Torah, fête religieuse juive qui commence ce soir, et il décline donc pour le moment l'invitation. Un geste pour sa droite religieuse la plus extrême, et peut-être aussi une excuse pour éviter une poignée de main gênante avec Mahmoud Abbas, pour l'homme, Benjamin Netanyahou donc, qui ne veut pas entendre parler d'un État palestinien.
Merci Thibault Lefebvre en direct de Jérusalem.
Midi et 36 minutes sur France Culture, la suite de votre journal Thomas Cluzel.
À l'issue d'une semaine riche en rebondissements, le petit théâtre de la vie politique a rouvert ses portes ce matin avec un nouveau mélodrame à l'affiche où l'improvisation aura sans doute du mal à venir bousculer une intrigue en réalité assez largement écrite à l'avance. Deux motions de censure à venir pour cette seule première semaine et où les rôles principaux restent surtout pour beaucoup inchangés. Le nouveau casting a été dévoilé hier soir. 34 ministres au total, dont beaucoup étaient déjà présents dans les gouvernements précédents, Bayrou et même Barnier. C'est le cas notamment de Gérald Darmanin, parmi 10 autres de ses collègues du parti présidentiel, mais également 6 ministres de droite, aussitôt exclus d'ailleurs du parti Les Républicains, et puis quelques nouveaux visages, dont 8 issus de la société civile. On citera par exemple le PDG sortant de la SNCF, Jean-Pierre Farandou, nommé au travail. Après des passations de pouvoir que le Premier ministre a souhaité sobres ce matin, comprenez, sans presse et sans invité, tous ont désormais rendez-vous en début d'après-midi à Matignon avec une première priorité: donner un budget à la France d'ici à la fin de l'année. On va y revenir dans un instant. Adrien Toffolet, bonjour.
Bonjour.
En attendant, la question que tout le monde se pose à nouveau ce matin est de savoir quelle chance donc ce nouveau gouvernement, Le Cornu 2, a-t-il de se maintenir. Vous avez fait les calculs.
Oui, on sait déjà que 210 députés sont déterminés à voter la censure. D'un côté, ceux du Rassemblement National et de son allié de l'UDR, Éric Ciotti, qui avait déjà fait le choix, avant même que Sébastien Lecornu ne soit reconduit à Matignon. Ils ont déposé une motion de censure ce matin. De l'autre, ce sont les députés insoumis, eux aussi, ont déposé ce matin une motion de censure, et ils invitent bien entendu l'ensemble de l'hémicycle à la voter, en particulier les autres partis de gauche, parmi eux le groupe communiste, qui n'a aucune position officielle à cette heure. Il y a toutefois de très grandes chances qu'ils la votent. Certains de leurs députés ont d'ailleurs déjà signé la motion de censure insoumise. Tout comme des députés du groupe écologiste et social. Officiellement, Marine Tondelier attend le discours de politique générale du Premier ministre, mais elle estime d'ores et déjà que la censure de leur part ne fait que peu de doute. On grimpe donc à 265. Autrement dit, il ne manque que 24 députés pour atteindre la majorité. Et très concrètement, ils pourraient venir de n'importe où. Du groupe Liot, dont le président Laurent Panifous est certes entré au gouvernement, mais qui est composé d'étiquettes politiques très variées, qui votent de façon indépendante. Les députés UDI notamment, ils sont 7. La censure est possible dès demain, avertissait ce week-end leur président Hervé Marseille. Tout se joue entre le Parti Socialiste, 69 députés, et les Républicains, 50, car les lignes rouges des uns sont les exigences majeures des autres. Une suspension de la réforme des retraites gagnée par les socialistes pourrait convaincre les troupes de Laurent Wauquiez de censurer, et inversement, le maintien de la réforme poussera le PS à faire chuter le gouvernement. Enfin, dans les rangs du Modem, d'Horizon et même d'Ensemble pour la République, certaines concessions à la gauche comme à la droite sont aussi des lignes rouges qui pourraient donner lieu à des initiatives personnelles appuyées sur le bouton de la censure.
Alors face à cette crise inédite, même s'il serait sans doute trop facile de rejeter la faute sur la seule personne d'Emmanuel Macron, il serait probablement tout aussi simpliste de se contenter d'accuser la seule complexité du système politique. En l'occurrence, les chiffres parlent d'eux-mêmes. 17% seulement des Français accordent encore leur confiance au chef de l'État. 73% souhaitent qu'il quitte l'Élysée, même ses compagnons de route ne semblent plus vouloir marcher ensemble, ou quand le président n'apparaît plus au fond que comme l'administrateur à la fois esselé et obstiné d'une République République où les législateurs se neutralisent désormais mutuellement, le tout sous le poids d'une dette monstrueuse. Et ce sera d'ailleurs le premier défi de taille à relever pour son premier ministre, Sébastien Lecornu, présenter une première copie du budget 2026, tout en laissant le soin au Parlement de surmonter ses divisions et ainsi espérer trouver un compromis ou, pour le dire autrement, éviter la perspective d'une censure ou de nouvelles élections législatives anticipées, étant entendu par ailleurs que, faute de budget débattu et voté par le Parlement dans les 70 jours suivant son dépôt, une loi spéciale reconduira les crédits de 2025 à l'identique et les dépenses de l'État seront gelées. Alors un premier conseil des ministres doit se tenir demain à 10h, ce qui devrait peu ou prou permettre de respecter les temps impartis. Pour en parler avec nous, invité de la rédaction à présent, Éric Coquerel, député LFI de la première circonscription de Seine-Saint-Denis et président de la Commission des Finances de l'Assemblée nationale. Bonjour monsieur.
Bonjour.
Peut-être pour commencer, Adrien Toffolet dressait à l'instant les chances donc du nouveau gouvernement de se maintenir ou non. Ce matin, Emmanuel Macron a déclaré, je le cite, que les forces politiques qui ont joué la déstabilisation de Sébastien Lecornu sont les seules responsables de ce désordre. Qu'est-ce que vous lui répondez ?
Que le seul responsable du désordre et du chaos depuis un an, il est à l'Élysée. Et que se défausser sur l'Assemblée nationale ou les partis est trop commode. Celui qui décide de la dissolution, celui qui décide de ne pas respecter le suffrage universel, celui qui décide coûte que coûte de maintenir des gouvernements de plus en plus macronistes quand ils sont rejetés par l'Assemblée, c'est lui. Et on ne voit pas ça dans aucune autre démocratie. Donc voilà le problème. Aujourd'hui, il est posé, ce qui d'ailleurs, vous le savez, nous fait remettre en question sa présidence et expliquer que si une issue via les urnes est souhaitable, elle devrait passer par une présidentielle anticipée.
Si l'on s'en tient au calendrier officiel tel que prévu par la Constitution, la présentation demain et non pas aujourd'hui de ce budget en Conseil des ministres accuserait un retard de 24 heures. Est-ce que c'est un problème ou bien est-ce que vous considérez que c'est un détail?
En fait, le vrai retard qui a été pris et qui lui ne sera pas rattrapé par rapport à ce qui en théorie se fait et qui c'est qu'il y a un retard de 2 semaines. Pour bien comprendre, le budget traditionnellement est présenté la première semaine d'octobre. Et donc les 2 semaines qui viennent d'être quelque part supprimées, c'est toute la marge possible pour traiter un budget. Là, on n'a plus de marge, c'est-à-dire que mardi matin, on se retrouvera vraiment sur la question des 70 jours de manière incompressible. Et donc, si le 23 décembre, le budget n'est pas voté, à ce moment-là, le gouvernement peut passer en ordonnance et restituer le budget initial. Et très franchement, c'est de cela que je le soupçonne, c'est-à-dire de rentrer à tout prix dans une discussion budgétaire en comptant sur cette espèce de ceinture de sécurité qui sont les ordonnances et qui lui permettraient dans ces cas-là de faire passer un budget sans vote.
Une question d'Adrien Toffolet.
Éric Coquerel, un mot au sujet du nouveau ministre de l'économie. Vous qui avez débattu avec Roland Lescure, notamment à l'Assemblée, quand il était ministre de l'Industrie et de l'Énergie, que pensez-vous de son profil ? Pensez-vous que le compromis sur le budget soit possible avec lui, qu'il soit prêt à plus de concessions que ses prédécesseurs ?
Écoutez, moi je pense que Monsieur Lescure, il remplace en fait quelque part le président, le ministre de l'économie précédent, c'est un peu le même profil. Et moi, ce que je regarde surtout, c'est que Amélie de Montchalin est maintenue au budget. Je pense que c'était elle qui avait très largement inspiré le budget Bérou. Et cette constance montre, et d'ailleurs c'est confirmé dans les faits, que ce qui va nous être présenté est un budget qui ne va pas changer du budget de François Bérou. En marge, on le sait, hein, il va y avoir une taxe sur les patrimoines, mais qui va exclure les biens professionnels. Donc c'est une taxe qui ne va pas servir à grand-chose. Et dans les grandes lignes, toutes les économies vont être trouvées soit sur l'État, soit sur les prestations sociales, soit sur une année blanche. Donc en fait, on a un duo qui est là pour essayer d'imposer toujours un budget finalement macroniste, que je définirais ainsi. Donc voilà, c'est pas tant les hommes ou les femmes qui sont là que leur constance depuis maintenant plusieurs mois sur le fait d'adhérer à cette politique économique. Et je crois que du coup, on peut s'attendre à peu de changements.
Roland Lescure, pourtant, s'est dit favorable la semaine dernière à une concession peut-être sur la réforme des retraites, une suspension de la réforme des retraites. C'est tout de même une avancée.
Une avancée pour, si vous voulez, dans le cadre d'un pays et d'une assemblée et des syndicats qui refusent cette réforme de manière très majoritaire et qui demandent l'abrogation, L'avancée qui consiste à dire on va la suspendre, et à mon avis ça va être assorti de la suspendre jusqu'aux prochaines présidentielles à 62 ans et 9 mois, moi je considère que la concession, quelque part, c'est nous qui la faisons si on acceptait ça, c'est-à-dire que ce qui devrait être sur la table, c'est la variation de la réforme des retraites. Mais qui plus est, je pense qu'en réalité le marché sera un peu un marché de dupes. J'espère du coup que le groupe socialiste ne s'y laissera pas prendre. C'est-à-dire qu'il va être dit à l'Assemblée, il sera possible d'amender le projet de loi de finances de la sécurité sociale par un amendement sur la suspension, et charge à l'Assemblée nationale de finalement l'adopter. Or, je viens de vous expliquer, il y a toutes les possibilités aussi pour qu'à la fin on n'ait pas ce type de budget modifié, transformé, soit par les ordonnances, soit par le fait, par exemple, de ne pas avoir de projet de loi de finances de la sécurité sociale adopté. Donc, je pense que cette promesse d'une suspension par un amendement, c'est quelque chose qui peut vite se révéler un jeu de dupes.
Et on terminera par ces mots. Merci Éric Coquerel, député LFI de la première circonscription de Seine-Saint-Denis, président de la commission des finances de l'Assemblée nationale, d'avoir répondu à notre invitation. Merci également à vous Adrien Toffolet, ainsi qu'à Louise Guérin pour la préparation.
C'est un témoignage inédit qui sort ce lundi et qui permet de comprendre le tout début de ce qui est devenu l'affaire dite des viols de Mazan.
Oui, ou quand un sous-brigadier de Carpentras, sans qui ce dossier n'existerait pas, découvre qu'un retraité, Dominique Pellicot, a drogué sa femme durant des années pour la proposer sexuellement à d'autres hommes. Quelques jours après le verdict en appel, Laurent Perret s'est confié pour la première fois au micro de nos confrères d'ici Vaucluse. Témoignage recueilli par Adèle Bossard.
Quand Dominique Pellicot est interpellé en septembre 2020 pour avoir filmé sous les robes de plusieurs clientes d'un supermarché de Carpentras, Laurent Perret travaille lui au service d'atteinte aux personnes du commissariat. Il est chargé d'extraire les vidéos avant la fin de la garde à vue du retraité. Mais il a l'intuition d'aller regarder plus en détail dans le téléphone.
Il n'y a aucune icône qui apparaît, il n'y en a que deux. Il y a Skype et à côté il y a la galerie. Je me dis, c'est pas normal. Voilà, ça m'a interloqué et je me suis dit, il faut creuser. Et j'ouvre Skype.
Et il tombe sur des dizaines de conversations.
Et je me demande si j'ai bien compris ce que je viens de lire. Parce qu'en fait, tout simplement, c'était la recette où il expliquait qu'il donnait 10 cachets de Temesta 2.5 à son épouse pour l'endormir et qu'il pouvait venir après, il n'y avait pas de souci. Et là, on comprend, on me dit, Laurent, tu as levé un truc important. Moi, le groupe me dit, il faut y aller, quoi.
Laurent Perret s'intéresse alors aux autres appareils saisis sur Dominique Pellicot au supermarché, et c'est là qu'il découvre une photo sur une carte mémoire.
J'ai une dame, en porte-jartel, allongée sur un lit. Voilà, c'est une dame qui semble d'environ 65 ans, quoi. Elle semble dormir.
Cette femme, c'est Gisèle Pellicot. Laurent Perret la voit inerte, nue, sur des centaines de photos et de vidéos sexuelles. Des scènes de violence, dit-il. Et c'est lui qui va lui annoncer ce dont elle est victime.
Donc à un moment donné, je lui dis, bon ben voilà, je vais vous montrer une première photo. Et en fait, la photo, c'est la fameuse photo que je découvre sur la carte SD où elle est nue en porte-jartel allongée sur un lit. Et là, elle bug. Elle marque un temps d'arrêt. Et là, elle dit, mais c'est moi. Et vous vous trouvez où? Mais je suis dans ma chambre. Mais je dors. Et elle me dit, c'est quoi ce porte-jartel? Je mets pas de porte-jartel. Et là, c'est parti. Là, elle est en train de comprendre, en fait. Dans son regard, elle était plus là, en fait.
Laurent Perret a juste le temps de convaincre celle qu'il appelle aujourd'hui Madame Gisèle de déposer plainte. 51 hommes seront finalement condamnés pour viol aggravé. Grâce à tous les maillons de la chaîne, vigiles, policiers de Carpentras et police judiciaire, insiste le sous-brigadier. Lui, très touché par cette affaire, a aujourd'hui préféré changer d'unité.
Dernière des récompenses de la levée 2025 des Nobel, le prix de la Banque de Suède en sciences économiques a été attribué ce matin.
Oui, en l'occurrence à un trio, l'israélo-américain Joël Mokyr, le canadien Peter Howitt et le français Philippe Aguillon. Les trois hommes, Marie Viennot, ont été consacrés pour leurs travaux sur la croissance économique tirée par l'innovation.
Pendant des siècles, la croissance économique a été très faible, mais à partir de 1800, elle a quasiment doublé à chaque génération. Or, ces trois chercheurs, a expliqué la Banque de Suède, ont travaillé sur la façon dont l'innovation technologique avait alimenté cette croissance, à quelles conditions, sans oublier les conflits que cette innovation avait pu causer. Joël Mokyr, 79 ans, est un historien de l'économie sur la période 1750-1914. À ce titre, il a montré comment l'innovation seule seule ne suffisait pas à susciter la croissance, car cette innovation pouvait ne pas être utilisée, voire rejetée. L'un de ses livres emblématiques s'intitule d'ailleurs « The Culture of Growth », la culture de la croissance. Le français Philippe Aguillon et le canadien Peter Howitt sont eux récompensés pour les travaux qu'ils ont menés en commun et qui ont fourni un modèle mathématique permettant de comprendre ce qu'on nomme la destruction créatrice, processus déjà théorisé par Joseph Schumpeter au début du XXe siècle. Outre la culture, les institutions et les politiques qu'elles mènent pour motiver les entreprises à innover sont aussi déterminantes, explique leur modèle. Après Gérard Debreu, Maurice Allais, Jean Tirole et Esther Duflo, Philippe Aguillon est le cinquième Français à recevoir le prix de la Banque de Suède. Il est professeur au Collège de France et travaille beaucoup en ce moment sur l'intelligence artificielle.
On termine avec un mot du temps pour cet après-midi ensoleillé sur la majeure partie du pays, même si quelques nuages tenaces résisteront au nord de la Seine. Quant aux températures, elles seront comprises entre 17 et 24 degrés. C'est la fin de ce journal. Il était réalisé par Axel Dubois et à 18h, vous avez rendez-vous avec Stanislas Vazak pour le prochain journal de la rédaction.